franceinter.fr.
Il est 8h23.
Le 7-9, Patrick Cohen sur France Inter.
Bonjour Luc Châtel.
Bonjour Patrick Cohen.
En mars 2013, vous avez été le premier responsable de l'opposition à réclamer le départ du gouvernement de Jérôme Cahuzac, ministre du budget, qui devait démissionner quelques jours plus tard, puis passer aux aveux sur son compte en Suisse. Son procès s'ouvre aujourd'hui. Est-ce que les bonnes leçons politiques ont été tirées de ce scandale ?
Écoutez, en tout cas, la justice fonctionne. Il y aura un procès, c'est une bonne chose. Ensuite, je considère qu'il y a un certain nombre de règles qui ont été mises en place sur la transparence de la vie publique qui ont permis, progressivement, parce que certaines d'entre elles ne sont pas nouvelles, d'autres remontent à quelques années, mais en tout cas, elles ont permis à ce que ces affaires émergent et qu'ensuite, les principaux responsables soient jugés.
Elles ont notamment entraîné directement ou indirectement la démission de deux autres ministres, Yamina Benguigui et Thomas Thévenoud. À l'époque, ces mesures, cette loi sur la transparence financière, vous l'aviez abondamment critiquée, Luc Châtel.
Parce que nous pensions, nous avons eu un débat sur une chose, c'est la publication d'un certain nombre, de la transparence ultime, c'est-à-dire la publication au grand public d'un certain nombre d'informations.
Les vieilles méthodes trotskistes du gouvernement et du PS, aviez-vous dit?
Si vous voulez, depuis que je suis parlementaire, ça remonte à 2002, nous avons des règles en matière de dépôt, de patrimoine, nous devons déposer un certain nombre d'informations, et à l'époque, il y avait une commission qui conservait ces informations, qui les vérifiait, qui enquêtait. Ça avait donné lieu déjà à un certain nombre de poursuites judiciaires lorsqu'il y avait eu des dérapages. Le débat que nous avons eu en 2013, c'était de savoir s'il fallait que ces règles, il fallait ces informations soient dans le grand public. Voilà. Moi, personnellement, j'y étais pas favorable parce que je pense que il y avait une commission très compétente qui pouvait juger du bien fondé ou non de ces informations, qui avait le pouvoir d'enquête. Et voilà, c'est sur ce sujet-là, sur ce point précis, que je me suis opposé.
Trois ministres ont donc démissionné à cause de leurs histoires ou de leurs démêlés avec le fisc, mais Patrick Balkany est toujours maire, député, et toujours soutenu par son parti, le vôtre.
Écoutez, il y a des instructions judiciaires qui sont en cours. Encore une fois, laissons la justice travailler. Moi, ce que je souhaite, c'est que la justice...
Pourquoi ce qui était valable pour Cahuzac ne l'est pas pour Balkany?
C'est valable parce que M. Cahuzac a clairement indiqué, et la justice a prouvé manifestement...
Ah oui, donc la différence, c'est les aveux.
Mais c'est pas que les aveux, c'est aussi l'enquête.
Donc si vous n'avouez pas, vous pouvez vous maintenir.
Non, c'est pas ça. C'est que, écoutez, est-ce qu'on peut laisser la justice travailler, aller au bout des enquêtes? Voilà, j'ai cru comprendre que M. Balkany était mis en examen, c'est-à-dire qu'il y a une instruction judiciaire qui est en cours et il n'a pas été condamné.
Quatre fois pour fraude fiscale, corruption passive, blanchiment de fraude fiscale et déclaration mensongère de patrimoine.
Bien écoutez, il y a une instruction en cours, donc puisque vous indiquez tout cela, donc laissons les juges travailler.
Répète ma question, pourquoi ce qui était valable pour Cahuzac ne l'est pas pour Balkany? Vous aviez réclamé sa démission, alors même que, de la même façon que pour Balkany, une information judiciaire était ouverte.
Patrick Cohen, nous sommes ici à France Inter, vous êtes, je pense, et vous avez raison, à juste titre, très à cheval sur les règles, sur les principes. La justice, elle instruit, elle enquête, puis, le cas échéant, si c'est nécessaire, elle juge. Voilà. Dans un cas, nous sommes au moment du jugement avec l'affaire Cahuzac. De l'autre, nous sommes à la période, à la phase de l'instruction.
Non. En 2013, on n'était pas au moment du jugement pour Cahuzac.
Écoutez, Monsieur Cahuzac, il a clairement avoué. D'accord. Et ensuite, l'enquête, manifestement, a prouvé qu'il y avait eu ses comptes en Suisse et qu'il y avait eu mensonge vis-à-vis de la représentation nationale.
Je répète, la différence, c'est donc les aveux.
Non, il n'y a pas que les aveux. Excusez-moi, je comprends pas bien vos questions.
Bon, alors, je vous en poser une autre, dernière. Patrick Balkany, c'est un bon exemple, il rend une bonne image de la politique?
Non, mais Patrick Balkany est parlementaire, il y a une instruction en cours, et la justice déterminera s'il y a eu ou non des faits délictueux, et c'est à la justice de le faire. Voilà.
L'examen de la réforme de la Constitution se poursuit aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec désormais des parlementaires de votre parti, les Républicains, qui devront arbitrer entre Nicolas Sarkozy, qui a dit qu'il était favorable par principe à toute mesure de déchéance de nationalité pour les terroristes, y compris notamment les binationaux, et François Fillon, qui appelle les élus de son parti à dire non à ce qu'il appelle un rafistolage. Et vous, Luc Châtel?
C'est une drôle de façon de voir ce débat sur la déchéance de nationalité, Patrick Cohen. La vérité...
Ah, écoutez, vous avez lu comme moi la tribune de François Fillon dans le journal du dimanche.
Question. Je vais répondre à votre question, mais si on revenait au fond du sujet, qui a proposé cette déchéance de nationalité? Le président de la République, dans un discours au Congrès de Versailles. Moi, je vous réponds, est-ce que je suis favorable ou non à la déchéance de nationalité? La réponse est oui. Deuxième question, est-ce que je suis favorable à son inscription dans la Constitution? La réponse est oui. Troisième question, est-ce que je suis favorable ou non à la déchéance de nationalité pour l'ensemble des Français ou la réserver aux binationaux? Je suis favorable, comme les Républicains en ont pris la décision dans son bureau politique, dans leur bureau politique, je suis favorable à ce qu'elle soit réservée aux binationaux. Voilà, voilà très clairement mon point de vue. Aujourd'hui, chaque jour, nous avons une nouvelle version du texte. Chaque jour. On aimerait bien sortir définitivement de ce mauvais feuilleton. Voilà. Alors demain, le groupe parlementaire va se réunir. Moi, je considère que en l'état, ce qui est important, c'est quoi? C'est que les Républicains montrent qu'ils sont du côté du renforcement de la sécurité des Français. C'est ça le sujet. Voilà, on peut discuter de l'efficacité du système. On peut discuter de savoir s'il faut ou non l'intégrer dans la Constitution. Ce qui est clair, c'est qu'aux Républicains, nous sommes très majoritairement favorables à la déchéance de la nationalité. Voilà. Donc,
malgré les opposants, on en a cité un, Fillon.
Il y a des débats, simplement. François Fillon, si on pouvait éviter de caricaturer, François Fillon, il est favorable à la déchéance de la nationalité. Simplement, il s'interroge sur l'intégration de ce dispositif dans la Constitution. Voilà. C'est un débat, c'est un bon débat.
Ce sont des raisons de forme.
En tout cas, c'est un bon débat que nous avons entre nous. Mais enfin, excusez-moi, nous avons changé 4 fois d'avis quand le président de la République a reçu les chefs de parti, qu'il a reçu Nicolas Sarkozy, Gérard Larcher, le président du Sénat, il a indiqué qu'il n'était pas favorable à l'apatridie. Il a indiqué qu'il proposerait un texte qui serait réservé aux binationaux. 10 jours plus tard, que fait son gouvernement? Il propose un texte qui permet l'apatridie. Cherchez l'erreur.
Question avant d'écouter la revue de presse et Hélène Jouan, question à l'ancien ministre de l'Éducation. Maîtresse, c'est avec un flex sur le i pour vous?
Je trouve que l'éducation, l'école de manière générale, mérite mieux que de jouer aux apprentis sorciers sur l'orthographe. Voilà. Autant je considère que le français naturellement est une langue vivante.
Qui sont les apprentis sorciers?
Je suis pas sûr. J'ai entendu Jean Dormesson et je suis assez proche de son point de vue. Je suis pas sûr que ce soit la priorité.
Jean Dormesson, il était à l'Académie française au moment où la réforme a été initiée en 90.
Oui, mais
et vous étiez au gouvernement au moment où elle a été relancée par un bulletin de 2008.
Oui, écoutez, c'était un bulletin. D'abord, soyez précis là encore.
Bulletin officiel.
Lorsque j'étais ministre de l'Éducation nationale entre 2009 et 2012.
Au moment du bulletin de 2008, c'était exact.
Je n'ai pas ressorti ce dossier et je pense bien m'en a pris. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a d'autres priorités pour l'école. La vraie question, c'est est-ce que d'écrire oignon sans i, ça va permettre d'avoir de meilleurs résultats au collège? Est-ce que ça va permettre qu'il y ait moins de décrocheurs? Sincèrement, je ne le pense pas. Deuxième élément, oui, le français est une langue vivante. Et vous avez rappelé à juste titre que ces propositions datent de 1989. Elles ont plus de 25 ans. La question qui vaut, c'est de savoir si ces modifications sont entrées dans le langage courant. C'est-à-dire, est-ce que les Français se sont appropriés ces modifications? La réponse est non. Donc, moi, je considère que ce n'est pas une priorité aujourd'hui. Et ce n'est pas tout à fait la même chose que de le citer dans un bulletin et d'en faire une des mesures de la réforme du collège. Voilà. Donc, je pense que
c'est l'une des mesures de la réforme du collège.
Voilà. Donc, moi, je ne suis pas favorable à cette évolution. Je pense qu'il y a d'autres priorités aujourd'hui pour l'école.
Luc Châtel, ancien ministre de l'Éducation, conseiller politique du président des Républicains Nicolas Sarkozy, avec nous, et député, évidemment, avec nous jusqu'à 9h. On vous retrouve dans quelques minutes avec les questions des auditeurs de France Inter. Il est 8h32.